Voilà, Château Montus, Monsieur Brumont parle de friche, et parce qu'hier soir, quand vous avez raconté votre histoire, vous avez quand même beaucoup parlé de friche, ou de château en ruine. Donc, côté création de valeur, moi, vous m'embouchez un coin, voilà, pour dire les choses de manière très triviale. Expliquez-nous un petit peu comment on fait, quoi, parce que... avec cette, en plus, une vraie fidélité au territoire, affirmée, clairement affirmée, réaffirmée, alors même que... Et là, vous serez en contradiction, me semble-t-il, avec M. Rougeau, qui, lui, a une vision mondiale et se raccroche, si j'anticipe un petit peu vos propos, mais il me semble avoir retenu que, pour vous, avoir un pied en France est également important. Vous, M. Brumont, vous avez vraiment décidé définitivement de rester dans votre territoire et, par contre, d'être un catalyseur de la vie de votre territoire.
Oui, mais j'ai plutôt l'habitude de parler de vin pendant 4-5 heures d'affilée, mais là, je voudrais adapter un tout petit peu mon quelques remarques avec tout ce que j'ai entendu ce matin, tout ce qui m'a profité ce matin. Donc je vais changer un peu ma méthode de me présenter. Donc bien sûr on est dans le sud-ouest, ce sud-ouest viticole c'est 60 000 hectares de vignes, c'est 43 dénominations, c'est 1260 metteurs en marché, dont 7 ou 8 coopératives ou une dizaine de coopératives. Et il y a deux appellations là qui sont intéressantes pour moi. Elles sont toutes intéressantes. Et ce sont tous des amis. Mais il y en a deux qui prédominent quand même. C'est, on va commencer par la Gascogne. C'est le vin qui marche tout seul. Le vin dont on parle dans le monde entier. Parce que il a un style original. Il est pas cher. Et il arrive à concurrencer des grandes régions de blanc comme la Nouvelle-Zélande. Donc la Gascogne, ça marche tout seul. Et je suis aussi, j'ai une activité en Gascogne où je travaille avec 39 producteurs. Donc on va revenir sur Madiran. Bon, Madiran c'est 1500 hectares. Nous avons 300 hectares sur Madiran. Et je travaille aussi avec une vingtaine de producteurs. Mais ce qui est mon parcours, c'est que j'ai 300 hectares. Vous allez dire 300 hectares, c'est pas forcément qualitatif. Mais j'ai eu une chance en arrivant. Une chance de m'intéresser au terroir, au cépage. Ça a été mes premiers moteurs, ce qui fait que j'ai carrément raflé 90% des bons terroirs qui étaient abandonnés. Et quand on a commencé à s'intéresser à ces terroirs, il me suffisait de vendre un hectare à maïs pour payer 10 hectares de ces grands terroirs.
On parle des années 80, c'est ça, hein?
C'était les années 80.
C'est pas l'antiquité, quand même. Hein.
Alors, les années 80, comment j'ai pu faire mon petit passage? C'est-à-dire, 80, je débute, 82, je sors la première bouteille de Montus, ça défie un peu la région, la nation, de voir qu'un Madiran qui était considéré comme un vin parmi les dernières 400 appellations en France, astringent.
C'était déjà une AOC à l'époque?
Oui, c'était une AOC. Ce qui est intéressant, c'est que les AOC sont partis en 1935 et les Bordelais sont venus chercher en 1938, qui a refusé, qui a monté un syndicat, avait la première dégustation obligatoire pour ne pas adhérer à Bordeaux parce que les Madiran étaient un vin médecin. Et si on remonte à 1821, un fameux tonneau qui sortait de Château Montus, je ne crois que ce qui est inscrit dans les archives, dans un fameux tonneau de 1821 qui avait fait 5 ans d'élevage dans ce tonneau, est parti à Bordeaux à des prix, mais on ne connaît pas les prix, mais c'est à des prix défiant toute concurrence. En 1926, un tonneau de Château Montus qui avait fait 10 ans d'élevage sous bois est parti aussi en Suède, dominant les prix de Bordeaux. Donc, Napoléon a été servi avec du Château Montus, officiel, parce qu'il y avait 3 généraux de Cassino, 3 frères et qui étaient généraux d'Empire et qui ont permis à ce que Napoléon goûte ce vin. Donc, je veux dire par là, tout ce que j'ai mis à l'endroit, remis à l'endroit, c'était ce qui était à l'inverse, ce que j'ai remis à l'endroit, c'était forcément à l'endroit, puisqu'on a des témoignages de cette appellation, puisque je parlais Gascogne, mais Madiran est considéré dans le monde entier, peut-être pas ici, comme étant l'appellation qui suit Bordeaux, Bourgogne, Côte-Rôtie-Hermitage et Madiran. Et dans le monde entier, pour provoquer, je commence comme ça, je dis je fais partie de ces 4 appellations, puisqu'en face de moi, il y a la Romanée-Conti, pas tous les jours, mais 5 fois, il y a Pétrus, il y a etc. Et j'ai fait tous les leaders du monde entier, et je peux dire que je fais partie des 4 premières appellations françaises, puisque je participe avec mes échantillons. Voilà. Donc, Ce qui m'a fait connaître sur le plan mondial, c'est qu'en 1985, j'ai élaboré un pur tanat qui était le cépage astringent. Et ce pur tanat, il a fait la première dégustation en France. Michel Bétane, qui est le gourou, le grand spécialiste du vin en France, il était tout jeune, il s'est trompé, il a dit c'est Château Lafite. Donc, deuxième dégustation, les 20 meilleurs francs, c'était 20 grands produits européens. 20 meilleurs français, je fais troisième. 10 meilleurs Bordeaux, je fais 5. La même année. Alors là, ça a été une aubaine pour moi, ça a été un miracle, ça a été un grand peu lancement, parce que quand j'ai débuté, le premier Montus a été vendu à 1,50€, aujourd'hui il est recherché à plus de 100€, le 82, et moi il me fallait 3€ pour vivre. Donc ça a été une aubaine, un miracle, que je puisse progresser aussi rapidement. Mais à ce moment-là, je me suis trouvé en face, un produit, il faut l'habiller, un produit, il faut des installations, le haut de gamme, ça coûte très cher, et je me suis trouvé en face des milliardaires, vous les connaissez tous, et je les fréquente encore aujourd'hui. Ils sont là, et moi j'avais 0 centime. À 30 ans, conflit familial, je m'en vais, j'avais rien dans les poches. Donc, et je m'installe. Donc, en vendant un petit moulin qui avait été meilleure restauration des gîtes ruraux en 1966, j'avais 20 ans. Donc, je m'installe et j'ai vu que ça coûtait très cher et j'ai eu l'idée de faire une société de construction immobilière puisque les banques ne voulaient pas de moi et c'est normal. Donc j'ai fait une société de construction immobilière et j'ai eu du succès parce que j'avais quand même quelques titres en 1985, et ce qui fait que on m'a fourni assez d'argent pour refaire tout un domaine. Aujourd'hui ça ferait l'équivalent d'un million. Et j'ai rendu cet argent sur 30 ans en vin et avec le vin et les intérêts. Mais je me suis planté. Au bout de 7 ans, ils avaient récupéré le vin et les intérêts. Et pendant 23 ans, ils ont eu du vin gratuit. Mais j'étais gagnant. J'ai dominé la situation parce qu'au début, il me fallait presque 4 hectares pour rembourser pendant 30 ans. Comme mes prix sans monter, j'ai remboursé tout ça, j'ai installé un domaine que vous voyez avec 0,75 hectare. Bon, voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'il faut avoir qu'il faut être différent de tout le monde ou déconstruire pour mieux reconstruire, et moi j'ai eu 3 axes en 1980. Donc le premier axe, c'est, je vous l'ai dit, c'est chercher les cépages et terroirs, et chercher surtout 3 cépages. C'était novateur, quand j'en parlais personne ne m'écoutait. Et j'ai dit, il faut trouver des cépages qui n'ont pas besoin d'intrants. Faire une vigne sans intrants et trouver des cépages qui n'ont pas besoin d'intrants. Donc, même en bio, puisque je m'intéresse beaucoup au bio aussi, et je respecte, mais on est obligé de mettre beaucoup d'intrants. Donc, alors, ça c'était mon premier axe.
Et le tanat, vous l'aviez choisi, il était en déshérence.
Alors, j'imagine, j'ai trouvé 3 cépages dans le sud-ouest qui permettent de limiter les intrants. 0 intrant, c'est difficile, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé 3 cépages, le petit courbu en sec, le tanat en rouge et le petit mancet en moelleux.
Qui faisait partie du cahier des charges de l'AOC?
Oui, de l'appellation, heureusement. Et ces 3 cépages-là, aujourd'hui, parce que j'ai réussi avec un rouge à être propulsé dans ce fameux top 100, top 10 mondial, il me fallait faire ça avec un moelleux, je l'ai fait accidentellement, puisque 3 décembre 88, j'invente les premières vendages tardives dans le sud-ouest, interdit de labellisation par un groupe, et un syndicat et un groupe qui a inventé le vendage de minuit à la 4e année. Parce qu'on s'est aperçu que ce vin-là se vendait quand même 20 fois plus cher que le vin du début.
Question subsidiaire, vous aviez besoin d'une labellisation pour ça?
Non, je n'ai pas besoin de labellisation. Si vous voulez que je raconte la
petite... Si le produit est bon, il n'y a pas de problème.
Je vous raconte la petite anecdote. Comme je vends des vins imprimeurs, j'ai commencé en 1985, ça m'a donné la trésorerie. J'ai proposé ce mois-là imprimeur. Mais je l'ai vendu en primeur, j'avais pas de label. Je vois chez moi un après-midi à 14h les fraudes, le service à viticulture, il y avait l'Oniver, tous ces services qui viennent chez moi. Ils me disent, on veut déguster ce 1985 100% tanat que je vous ai dit qui n'avait pas eu le droit au label. On veut déguster ce premier vendage tardif 1988 qui n'a pas eu le droit au label. Et moi j'ai eu la trouille, je me suis dit là je l'ai commercialisé avec la Marianne dessus. je vais en prison, j'ai fait du faux. Ils me disent, ils rigolent tous, ils me disent, ça c'est une appellation de fait, de par la qualité, comme le champagne, on n'a pas besoin de dégustation. Ils ont tous fait une lettre, ils l'ont envoyé à Liano, qui était de combine avec l'interprofession locale, etc. Donc, et moi j'avais livré, et ce jour-là, on a livré une bouteille au responsable de Liano de Pau, de Bordeaux et de Paris, on n'a jamais eu de réponse. Et mes dossiers sont partis à la poubelle, voilà. Non. Alors, c'est quelquefois pas facile quand on débute et quand on n'est pas dans la mouvance de tout le monde. Bon, alors après, ce qu'il fallait, moi, me séparer de cette mentalité maïs. Je suis né dedans et le maïs, dans les années 70, a financé le vignoble de Madiran. Mais cette mentalité maïs ou cette mentalité de vigneron local, le coup, ça me gênait un tout petit peu et j'étais souvent en contradiction avec eux. Et ça a été mon premier souci d'avoir une nouvelle mentalité et de regarder ce qui se passait dans les trois grandes régions, Bordeaux, Bourgogne et Côte-Rôtie. Donc, alors, premièrement, j'ai dit, ils ont des règles très simples, les champagnes, ils ont des règles très simples. Ils ont 8000 pieds hectare depuis 2 à 6 siècles, il y a une raison. Voilà, ils comptent le nombre de grammes par pied. Ici, on regarde les hectolitres. Ils ont raison. Alors, moi, je suis passé à 5-6 grappes par pied, et alors qu'il y avait du 25 grappes par pied. Donc, alors, ça a été des réflexions comme ça. Donc, et puis après, je me suis dit, il y a autre chose aussi. Je suis dans le... Comment il faut que je me défende dans la région pour vendre ce verre qui a été déjà remarqué. Donc, j'ai trouvé mon système. Je viens de la... Parce qu'on m'interdisait, en face de ces grandes images et ces bouteilles très chères, de prononcer le mot Madiran et le mont sud-ouest. Alors, parce que c'est égal, vin du sud, vin du midi, vin petit verre, à côté de Bordeaux-Bourgogne, vous avez un auditoire qui a payé très cher, etc. Donc, essayez de vous débrouiller sans employer ces deux mots. Donc, j'ai contourné en disant, je viens de la première région de produits gastronomiques au monde. Chez moi, la truffe, le foie gras, le caviar aussi, le caviar d'Aquitaine. Celui qui l'a créé, il est à risque, à 2 km chez moi. Bon, j'ai annoncé tout ça, et si vous venez à ma table tous les midis, ben vous aurez ça, on partagera tous ces plus beaux produits. Et comme dit Alain Ducasse, si on enlève le sud-ouest, on perd 80% des produits agroalimentaires de gastronomie. Donc, je me suis défendu comme ça, et comme ça, je présente le sud-ouest et je le présente à l'envers. Voilà.
Vous auriez pu penser au pruneau quand même.
Oui, le pruneau, il y a un Gascon qui l'a mis quand même en évidence, le pruneau. André Daguin, la glace au pruneau et à l'Armagnac, je pense, elle s'est dupliquée par milliards dans le monde. Ouais.
Bon. Je referai la parenthèse.
Donc j'ai fait quelques vis-à-vis de ce matin. Ce que je voulais vous dire, c'est que souvent, les moyens de communiquer, on a des moyens de communiquer, quelquefois j'ai entendu, ça coûte cher, la communication, le marketing, etc. Mais nous, on a trouvé un moyen très simple, c'est-à-dire en retournant, en regardant ce qui se passait 2 siècles chez moi, 2 siècles ou même une centaine d'années, et même moins, il faut rendre ce sud-ouest assez convivial. Alors j'ai décidé de créer une table chez moi, la table du domaine, qui est mondialement connu, autant Cruz et Nicole Kilman sont venus s'y fiancer, quand 25 ans, quand ils étaient à Cannes, et de suite, à l'étranger plutôt qu'en France, on a dit, il y a une table spéciale chez Environ. Il y a tous les employés, vous êtes intercalés avec les employés, et aujourd'hui on est 50 quand il fait mauvais temps, l'hiver, et 250 l'été, à la même table. Et alors, tout ce qui se communique avec le vin, on les invite. Et cette table, bien sûr, il faut nourrir, on a un chef qui a travaillé dans les 2 étoiles, donc pas mal, mais on lui a dit, on veut nourrir les gens avec moins de 2 euros, pas plus. Donc on est en autonomie complète, on a nos légumes, nos jardins, toutes nos productions. Au nord de Bigorre, j'ai participé avec 3 copains pour créer l'aventure, à tout début, il y a 30 ans. Donc on a tous ces produits-là, et cette communication, elle est originale, il faut être original, et très différent par rapport aux autres. Donc ceux qui viennent chez moi, ça, ils le trouvent nulle part dans le monde. Et en même temps, on vend la Gascogne, on vend le tourisme. Quand on parle de nos tourismes, je pense que... quand j'ai abordé le problème de l'entourisme, j'ai regardé ça et j'ai trouvé quelques bons exemples dans le monde entier, à Bordeaux, Magré, etc. Et je me suis dit, il faut amener des gens qui aient un potentiel financier, parce qu'on a de très beaux produits, de très belles filières. Non, il faut amener des gens qui aient un potentiel financier, donc un potentiel important. Donc, je me suis dit, qui c'est qu'il y a ? Il y a Guérard, et nous, involontairement, tout petit à petit, on l'est devenu. Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde le ticket moyen, moyen, une vente au domaine, j'ai vu ça, tout produit confondu il y a quelque temps, c'est autour de 40 euros. Mais nous, vous rajoutez un zéro et vous en rajoutez un autre zéro supplémentaire. Vous en rajoutez deux zéros. Donc, cette clientèle-là, qui a beaucoup de moyens, elle voyage dans le secteur. Elle nous demande le programme touristique, elle nous demande les nouvelles filières, où c'est qu'il faut aller. Et je pense que si on était plus nombreux, il y a des régions où ils sont plus nombreux que nous, il faut amener des gens qui aient du potentiel pour faire vivre toutes ces nouvelles.
Ce qui veut dire que vous êtes une vraie locomotive pour tout un territoire, pour le coup.
Non. Alors, ce qui m'a choqué un tout petit peu et ce qui m'a réconforté, c'est j'ai beaucoup pris à travers le discours de Maître Nonon. Bon, vous savez que il y a deux cas deux viticulteurs dont on parle, c'est Tariqué et nous. Tariqué plutôt en France et nous plutôt à l'export. Vous savez que les deux premières décennies où on a œuvré, on avait zéro subvention. Avant qu'il y ait Agrimer, c'est un ou deux organismes prenaient 80% des subventions du sud-ouest, de l'État, de l'Europe, etc. Et nous, on est parti avec, on a fait de zéro subvention, quand on sait les deux noms les plus médiatisés aujourd'hui. Heureusement qu'Agrimer est arrivé, et les problèmes s'affairent. Eh bien, j'ai des copains qui sont passés à 1000 hectares de céréales, 2000 hectares de céréales, dans le sud-ouest. Ils n'ont jamais eu la nuit avec la Safer. Mais nous, on était visés seconde par seconde. Voilà. De plus, on me dit, quand on me dit il faut laisser, 30, il faut laisser ces 10 hectares de vigne à un jeune, mais le jeune, le lendemain, il vient chez moi pour vendre plus cher qu'à la coopérative, parce que je rémunère plus cher. Donc, alors ça, c'est assez paradoxal. Je souhaiterais que ces organismes soient pour distribuent les terres, c'est pour nous c'est vital, distribuer ces vignes à des gens qui créent de l'emploi. Et quand j'ai débuté en 1980, on avait des emprunts par rapport à l'UTH. Alors, c'était basé sur l'UTH. Tout ça, ça a été supprimé par les deux gros organismes dont on a parlé ce matin. Ça, c'est dommage parce que on pourrait créer, à mon avis, 1 million d'emplois supplémentaires en France si on récompensait les agriculteurs par rapport à l'UTH auquel il a droit, auquel on lui octroie. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu surpris. Après, il y a les valeurs sociales. Bon, aussi, quand on dit à un jeune viticulteur dans le sud-ouest, il te faut 30 hectares pour vivre et tu ne pourras pas te payer un salarié, tu combines un tout petit peu, avoir une main d'œuvre parallèle, nous, on a 1,6 hectare, on a un bon salaire. Hein, et un salaire normal où vous travaillez 35-40 heures. Voilà. Et non 70 heures, comme certains organismes oblige les viticulteurs à travailler. Alors, ça, c'est très important pour moi. Alors, les nouvelles filières, j'en ai parlé, mais ça, elles m'inspirent énormément, les nouvelles filières, parce que moi, je prends mon essence dans les nouvelles filières, et c'est pour ça que je suis à l'affût de toutes les filières, toutes les nouvelles filières qui se développent autant dans le sud-ouest qu'à l'étranger. Et il y a une réflexion, là, on a parlé du lait, on a parlé un peu de la viande, mais quand j'entends la restauration qui dit en France, vous faites des bovins, des bœufs, là, pour le concours agricole. Mais pour nous, ça ne nous convient pas. Et aujourd'hui, et de plus en plus, surtout depuis 2 ans, j'entends parler de Wagyu, de Angus, de Simmental, et les races françaises, non, elles sont pas bonnes. Alors, quand je parle avec les éleveurs, j'aime beaucoup les éleveurs, on nous dit, voilà, on nous fait faire des étables industrielles pour le clair, etc. Et la biodiversité, avec la photo que je vois là-bas, on l'oublie un tout petit peu, les animaux sont faits pour entretenir la nature, la biodiversité, et faire de la viande de qualité. Quelquefois, il ne faut pas hésiter à faire des croisements ou à se mettre à la portée du consommateur. Voilà. Il y a deux choses où vous vous mettez à la portée du consommateur, notamment en l'occurrence la belle gastronomie pour qu'elle vende vos viandes et non les viandes étrangères, ou alors vous imposez votre griffe. Moi j'ai choisi d'imposer ma griffe, mais il faut passer, et là je m'aperçois qu'en viande, de plus en plus, surtout, et puis en plus il y a le phénomène vegan dans le monde entier qui grandit, donc je pense que les éleveurs devraient promotionner la biodiversité, l'entretien du paysage, plutôt que de monter ces étables industrielles dans tous les coins. Attendez, j'ai pris quelques notes quand même.
J'ai cru le remarquer. Bravo, vous êtes
alors,
très
ce matin, vous avez dit qu'on était la première région région viticole française. Mais vous savez ce qu'on dit à l'étranger? C'est la première, parce que ça, ils l'ont remarqué. On l'a assez affiché partout. Maintenant, avec l'Occitanie, Midi-Pyrénées, on est la première région de viticole française. Mais l'idée, c'est la première région des produits de merde. Et on va là pour chercher C'est vrai. On va là pour chercher des verres à 1 euro. C'est là où on a les verres les meilleurs marchés. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une autre réflexion sur le plan viticole, les organisations professionnelles. Quand vous êtes dans les trois grandes appellations, Champagne, Bordeaux, Bourgogne, on va chercher celui qui est le plus doué pour le mettre en haut de la pyramide pour gérer les autres. Dans le sud-ouest, on a l'habitude de prendre celui qui est en bas de la pyramide pour gérer les autres. Donc, celui qui est à 1 euro pour gérer les autres. Donc, je fais une remarque. Quand j'ai débuté, j'ai osé dire, maladroitement, à Madiran, il n'y a pas de bons viticulteurs dans le sud-ouest. Qu'est-ce que je me suis ramassé? Et j'ai dit, il y a Ramonteur, Jurançon, qui sait faire des secs et des moelleux extraordinaires. Il y a Tariqué qui a un concept, et moi aussi. Donc, là, ça passait pas très bien. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 60 viticulteurs dans le sud-ouest qui sont des leaders. Ou alors, vous prenez 60 viticulteurs dans l'Occitanie et le sud-ouest, je veux les accompagner, je veux qu'on aille rencontrer Bordeaux, je veux qu'on aille rencontrer les Espagnols, je veux qu'on aille rencontrer les Italiens, mais faites-le admettre à l'interprofession des vins du sud-ouest. Voilà, voilà pourquoi on pêche, parce que, et alors là, qu'est-ce qui se passe sans une organisation? On prend le premier, et le second, on ne veut pas. Voilà, et puis c'est fini, ça reste là. Donc, c'est dommage, parce que cette viticulture du sud-ouest pourrait, ce qui m'intéresserait, c'est qu'en apportant 1 euro par col à tout le monde, là, elle devient rentable et intéressante. Et donc, pour moi, ça me paraît très facile. Mais tant que vous aurez des organismes qui pensent qu'en mettant leurs hommes dans toutes les organisations, ils font le poids et ils vont réussir. Ça fait 40 ans qu'ils échouent, c'est pas aujourd'hui. Il y a 40 ans, ils étaient à 1 euro, et aujourd'hui, ils sont encore 1 euro. Non, ils étaient à 0,5 euro, ils sont à 1 euro. Donc, je pense que cette organisation viticole, il faut toujours profiter de quelqu'un qui peut vous ouvrir les portes, de quelqu'un qui est admis un tout petit peu partout. Moi, ce qui m'a réussi en 1985, quand les 50 leaders internationaux m'ont ouvert les portes, ce sont des amis, on faisait des mariages, on va faire des enterrements, on en fait déjà, non, mais depuis longtemps, et c'est eux qui m'ont aidé. J'ai pas pris leur recette, c'est comme un cuisinier en 3 étoiles, il peut pas prendre la recette d'un autre, mais il réfléchit pour, dans son secteur, trouver la propre démarche.
Alors comment on fait? On change les hommes, on change les structures, parce que là, c'est des inerties, c'est des rigidités, c'est un manque d'agilité, des problématiques de pouvoir.
Non, premièrement, en interne, chez moi, tous les lundis matins, on fait le match. On aime le rugby, tous les matins, on fait le débrief. Non, et il faut une équipe intéressante. Non, il faut distribuer aussi, j'ai dit qu'il fallait faire du social. Du social aussi, nous, on prend une vingtaine de stagiaires. Mes cadres me disent, avec trois, on en a assez. Nous, on est une cinquantaine qui dit qualité, dit il faut énormément de main d'œuvre, mais de main d'œuvre très qualifiée pour faire de la qualité. Là, on est une cinquantaine annualisée, on est 80, une centaine, parce que tous ceux qui sont travaux vignes, je fais deux périodes de 5 mois. Un petit détail, pendant 6 mois, nous ne rentrons pas dans la vigne, on ne va pas abîmer le sol. Non, je saute du coq à l'âne, mais ce qui est important à vous dire, j'ai ma méthode. Donc, le bio, j'aime beaucoup le bio, je pense qu'il en faudrait 10 fois plus pour la santé humaine, mais en matière viticole, on a quelques problèmes, puisqu'il y a certains pays qui vont interdire le cuivre, tous les métaux lourds, cuivre, soufre-fleur, et le pyrètre qui est le destructeur de tous les prédateurs. Bon, on a quelques problèmes, il faut le dire. Sachez que je suis ami avec le plus grand organisme certifié, avec le patron du plus grand organisme de certification. On échange, il faut être positif et il faut dire ce qu'on disait tout à l'heure, il faut informer le consommateur de ce qui se pratique et sera assuré, parce que du jour au lendemain on va interdire le cuivre et le soufre-fleur, déjà beaucoup en parlent.
Il n'y aura plus de problème de marché en bio, hein.
Comment?
Il n'y aura plus de problème de marché en bio.
C'est la vigne, oui. Mais les autres cultures, ça marche tout seul.
Probablement que la vigne aussi.
Vous avez bien choisi vos génétiques, alors.
Il y a certains viticulteurs en biodynamie. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la viticulture ni de l'ONO, mais je pense qu'il y a certains producteurs en biodynamie, parce qu'il y a maintenant des producteurs en biodynamie depuis 30 ou 40 ans, qui gèrent sans cuivre. Hein. Après, ils sont peut-être dans des zones où il y a moins de pression aussi. Hein. Attention.
C'était une question de pression. Vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez faire du bio viticole dans certains pays semi-désertiques, plus facilement près de la Méditerranée, et du côté atlantique, c'est problématique, très problématique. Mais en ce qui concerne le bio, j'ai débattu avec Nicolas Joly, dans beaucoup de débats, dont la biodynamie. Dans la biodynamie, je ne suis pas tout à fait d'accord, principalement sur la vigne, parce que nous l'avons essayé, et on a essayé, avec Nicolas Joly comme témoin, on a essayé de faire l'inverse de tout ce que dit la biodynamie, et ça marche quand même, ou ça ne marche pas du tout. Donc, le bio en lui-même, bon, ça a beaucoup apporté, mais la biodynamie, vous savez, premièrement, on a des plantes transformées. La lune marche avec les plantes naturelles. La vigne est hybride, non, la vigne, c'est des métis, à partir de ce qu'ils sont devenus des races pures, etc. On a transformé beaucoup de phénomènes, et puis la biodynamie ne rentre pas dans le chai, c'est dans les chais que ça se passe aussi. Donc, alors, moi j'ai mon propre concept, si vous voulez, je peux en parler un peu, parce que j'ai pris tout, il y a des solutions. Moi je me suis inspiré de la foresterie pour faire la viticulture, la mycorhisation de la foresterie, et je l'ai introduit dans la vigne, et ça marche, à condition de mettre la vigne en économie, parce que la vigne à l'origine elle n'avait qu'une grappe. Depuis plus de 2000 ans, bien plus, on a sélectionné les vignes avec deux grappes. Elle n'avait qu'une grappe. Moi j'ai 300 hectares, je laisse qu'une grappe. Je mets la vigne en économie et à l'intérieur, un sillon sur deux, je laisse pousser toute la flore. J'y passe pas pendant une quinzaine d'années. La terre est soulevée, et si vous voyez la faune qu'il y a là-dedans, la terre est soulevée et vous avez une mycorhisation, vous avez quelquefois 5 cm de champignons blancs, de champignons dans le sol. Et là on sait que la vigne est aidée par ça, puisqu'on a fait toutes les démonstrations, désherbage total, moi je fais énormément de d'essais. Donc il y a des solutions. Orienter la vigne à 16 heures pour que le soleil fasse le tour de la grappe, ce sont des champignons, les trois principales maladies sont des champignons, on enlève 30% des maladies. Il y a des solutions, elles y sont les solutions.
On pourrait en parler pendant des heures, merci en tout cas pour ce témoignage et... Bon, je crois que là aussi, on a rajouté une couche à nos perspectives de création de valeur, même si le cas est tellement unique.